Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Maëlys et bonjour à tous. Dans l'actualité ce midi, plusieurs dizaines de morts au Yémen dans une attaque revendiquée par les rebelles Houthis. C'est une caserne militaire qui était visée dans la ville d'Aden. La rébellion, nous dira Valérie Crova, qui dispose désormais d'une véritable puissance de feu capable d'atteindre l'Arabie Saoudite. Les États-Unis accentuent leur pression sur l'Iran avec l'annonce d'un régime de sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Washington s'en prend à l'une des voix de Téhéran sur la scène internationale. Explication à suivre de Christian Chéneau. C'est l'une des têtes d'Al-Qaïda qui est tombée, la mort probable d'Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Claude Guibal viendra nous dresser son portrait. En France, le ministère de l'économie inflige une amende record à EDF, 1,8 million d'euros pour facture impayée. L'électricien qui est l'un des plus gros mauvais payeurs de France. On verra ça avec Margot Delpierre. La polémique sur la mort de Steve Maya Canisso à Nantes qui est relancée. Des policiers et des gendarmes soupçonnés d'avoir tenu des propos choquants sur les réseaux sociaux. Un gendarme va être convoqué par sa hiérarchie. On verra ça avec Maxime Fayol. Et puis la grande table d'été, Maëlys Besserie, à 1h moins le quart.
Oui, on va parler de l'exposition Bouddha, la légende dorée du musée Guimet, avant de faire le portrait de la poétesse et philosophe Tanella Boni.
Le Yémen, toujours plongé dans la guerre, et ce matin, la liste des victimes s'est encore allongée avec deux attaques qui ont touché la ville d'Aden, dans le sud du pays, là où est implanté le siège du gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale. Deux attaques qui visaient des forces de l'ordre et qui ont fait au total plusieurs dizaines de morts. La première a été revendiquée par les rebelles Houthis qui ont tiré un missile sur une caserne. La preuve, va Valérie Crova, que la rébellion dispose désormais d'un arsenal conséquent, une puissance militaire capable d'atteindre le territoire du royaume saoudien.
C'est à l'aide d'un missile balistique de moyenne portée et d'un drone que les rebelles Houthis ont attaqué une caserne des forces de l'ordre près d'Aden. Le mode opératoire ressemble à une autre attaque au drone menée en janvier contre une base aérienne où se déroulait également un défilé militaire. Un haut responsable des services de renseignement yéménites avait été tué. La capacité militaire des Houthis s'est considérablement renforcée depuis plusieurs mois. Début juillet, ils ont présenté un drone bombardier et un missile de croisière lors d'une cérémonie organisée pour le 5e anniversaire du début de la guerre qui les oppose à la coalition menée par Riyad. Dans une vidéo, des chefs rebelles passent en revue une quinzaine de modèles de nouveaux missiles et de drones, dont un drone bombardier sur lequel est écrit Made in Yémen. Il disposerait d'un rayon d'action de 1500 km, ce qui lui permettrait de toucher des cibles en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Arabes Unis. Quant au missile de croisière, il a été baptisé Al-Quds du nom de l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne. Riyad et Washington soupçonnent l'Iran de fournir aux Houthis toute l'expertise nécessaire pour développer ses armements de plus en plus sophistiqués.
Un coup dur porté à l'organisation terroriste Al-Qaïda. Les autorités américaines confirment ce matin les informations de presse parues ces derniers jours sur le décès probable d'Hamza Ben Laden, le fils d'Oussama Ben Laden. Il aurait été tué lors d'une opération militaire avec la participation des États-Unis. Hamza Ben Laden, âgé d'une trentaine d'années, était présenté comme l'héritier de son père à la tête d'Al-Qaïda. Son portrait avec vous, Claude Guibal.
Oui, de la vingtaine d'enfants d'Oussama Ben Laden, Hamza, c'est le fils préféré, celui qui grandit auprès de son père en Afghanistan. On l'y voit dans une vidéo, âgé d'une douzaine d'années, déclamant un poème à la gloire du djihad près d'un hélicoptère américain abattu au sol. Dans celle découverte en 2011 dans la cage d'Abbottabad à la mort de Ben Laden, on le retrouve jeune adulte pour son mariage, cultivant une ressemblance troublante avec son père au même âge, long cils, fine moustache, sourire doux. Hamza, de depuis, a plusieurs fois appelé à venger la mort de son père. Mais ce n'est qu'en début d'année que son nom est brusquement réapparu dans le viseur des États-Unis, qui ont offert $1 million pour tout renseignement à son sujet, la semaine même où l'Arabie Saoudite annonçait de son côté l'avoir déchu de sa nationalité. Et cela, c'est loin d'être un hasard, au moment où en Irak et en Syrie, l'État islamique, le grand rival d'Al-Qaïda, est en perte de vitesse. Alors dans ce contexte, la personnalité charismatique du fils du fondateur du djihad international est un véritable aimant pour les nombreux combattants qui cherchent en fait à continuer le combat et sont de plus en plus nombreux à se rapprocher d'Ansar al-Furqan, le groupe qu'il dirige au sein d'Al-Qaïda.
Merci Claude Guibal. Le bras de fer continue entre Washington et Téhéran et cette fois c'est le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, qui est au cœur de la discorde. Les États-Unis ont décidé de lui imposer des sanctions, notamment le gel de ses avoirs. Washington s'en prend à l'une des voix de l'Iran sur la scène internationale. Le diplomate est notamment à la tête des discussions sur le nucléaire. Téhéran n'a pas tardé à réagir. Ce matin, le président Rouhani évoque un comportement puéril de la part des États-Unis. Explication de Christian Chéneau.
Mohammad Javad Zarif a réagi avec flegme et humour à sa mise en quarantaine. « Je n'ai aucune propriété ni aucun actif en dehors de l'Iran », a-t-il tweeté avant d'ajouter « Merci de me considérer comme une menace ». Washington a justifié la mise sous sanction du patron de la diplomatie iranienne. Il incarne le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes, a fait savoir un haut responsable de l'administration Trump. Paradoxalement, la Maison-Blanche s'en prend à l'une des personnalités les plus américanophiles du régime iranien. Zarif a vécu et étudié aux États-Unis et parle un anglais irréprochable. Il est surtout l'architecte en chef de l'accord sur le nucléaire de 2015. Cette décision américaine est un coup dur porté à la diplomatie, même si Mohammad Javad Zarif pourra continuer de voyager à l'étranger et pourra participer aux activités de l'ONU à New York. L'Amérique de Trump intensifie sa politique de pression maximale contre l'Iran et semble vouloir couper tous les canaux officiels et publics de communication avec la République islamique. Le fait de sanctionner des diplomates affaiblit la diplomatie, a ainsi tweeté le sénateur républicain Rand Paul, qui avait tenté d'entamer une médiation avec l'Iran. Autre conséquence, les sanctions contre l'Iran renforcent le camp des durs à Téhéran qui pousse à la confrontation avec les États-Unis. Seul le président Hassan Rouhani échappe encore aux sanctions américaines.
C'est une défection plutôt rare dans l'un des secteurs les plus surveillés et militarisés au monde. Un soldat nord-coréen a réussi à franchir la frontière avec la Corée du Sud. Le militaire a été vu en train de passer la ligne de démarcation mercredi soir sans réaction particulière de la part des autorités nord-coréennes. En 2017, un autre militaire nord-coréen avait déjà réussi à franchir la frontière, mais cette fois sous une pluie de balles. La propagation de l'épidémie d'Ebola dans la région des Grands Lacs fait peur aux voisins de la République démocratique du Congo. Après la mort d'une deuxième personne en RDC à Goma, le Rwanda a décidé ce matin de fermer sa frontière avec le Congo-Kinshasa. Et puis au Maroc, c'était hier la traditionnelle cérémonie d'allégeance dans le cadre du 20e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI. Cérémonie toujours très impressionnante. Plusieurs centaines d'élus et de hauts dignitaires marocains se sont prosternés devant le souverain monté sur un cheval. Cérémonie critiquée aussi par certains car considérée comme humiliante pour les personnes qui y participent. Dossier à retrouver sur franceculture.fr. EDF ne pourra plus donner de leçons à ses clients qui payent leurs factures d'électricité en retard. Et pour cause, l'entreprise publique fait partie des plus gros mauvais payeurs de France. En clair, EDF ne paye pas ses fournisseurs dans les temps voulus. Et le ministère de l'économie a décidé de ne pas faire de cadeau à l'entreprise avec une amende record qui vient d'être infligée au groupe EDF. 1,8 million d'euros. Bercy veut envoyer un signal fort aux mauvais payeurs, hein, Margot Delpierre.
Oui, depuis plusieurs mois, Bercy épingle de grandes entreprises pour non-respect des délais de paiement. Après Nestlé, Amazon ou encore Sephora, EDF est la dernière en date. L'électricien doit donc s'acquitter d'une amende d'1,8 million d'euros, amende la plus élevée décidée à ce jour en France pour ce motif. Un chiffre proportionné au montant de trésorerie immobilisée par l'entreprise selon Bercy. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a épluché les factures entre mars et août 2017. Et voilà le résultat. Sur plus de 130 000 factures adressées à EDF, 10% n'ont pas été réglées dans les temps. Ça représente plus de 38 millions millions d'euros. EDF a réagi dans un communiqué ce matin. L'électricien dit prendre acte de la décision et va renforcer ses procédures internes pour que cela ne se reproduise plus. Bercy montre du doigt EDF en vertu du name and shame, comprenez nommer et faire honte. Une pratique instituée dans la loi Pacte promulguée en mai dernier. Un amendement autorise l'administration à publier dans la presse les noms des entreprises sanctionnées. Et s'il y a un Français qui apprécie ce procédé d'origine anglo-saxonne, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Alors qu'il était encore ministre de l'économie fin 2015, il avait publié le nom de 5 entreprises pour non-respect des délais de paiement.
Merci Margot Delpierre. Voilà qui ne va pas calmer la colère des manifestants qui ont prévu de se rassembler samedi à Nantes pour rendre hommage à Steve Maillet à Canisso. Alors que l'intervention de la police le soir de la mort du jeune homme est toujours au cœur de la polémique, même si le rapport de l'IGPN a complètement dédouané les forces de l'ordre. Dans ce contexte, donc, on apprend aujourd'hui, Maxime Fayol, bonjour.
Bonjour.
On apprend que des policiers et des gendarmes sont soupçonnés d'avoir publié sur les réseaux sociaux des messages particulièrement choquant sur la mort de Steve.
Et oui, on a pu voir les captures d'écran sur les réseaux sociaux, par exemple un montage entre le super-héros Aquaman et le petit Grégory, ou encore des messages tels que « Steve is in the water », comprenez « Steve est dans l'eau ». Des propos qui ont choqué les internautes, qui ont effectué plusieurs signalements. Il s'agit maintenant de démêler le vrai du faux, savoir si ces messages ont été ou non postés par des forces de l'ordre. Il y a un risque de manipulation, me confiait ce matin un membre de la gendarmerie. Mais si ces messages sont véritablement postés par des gendarmes, c'est déplorable, intolérable, ajoute-t-il. Même son de cloche du côté du syndicat Alliance, son secrétaire départemental adjoint Régis Serroin.
Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Là, je ne peux pas me porter garant de ce genre de propos, c'est évident. Ils engagent leurs responsabilités. Si personne ne porte plus haut que ça ce genre de propos, ben, j'aurais tendance à dire tant mieux pour eux. Maintenant, en faisant ça sur des pages publiques qui peuvent être imprimées, qui peuvent être diffusées, des choses comme ça, ben, ils s'engagent eux-mêmes à subir des sanctions, tout en sachant qu'on est sur une affaire relativement sensible.
Une enquête administrative a été ouverte. Tous les signalements sont vérifiés par l'état-major de la gendarmerie. Selon nos confrères de France Bleu Loire-Océan, un gendarme a déjà pu être identifié malgré sa page qui est privée et où il s'exprime sous pseudonyme. Il sera prochainement convoqué pour s'expliquer. La sanction pourra être d'ordre administratif, voire pénale en fonction de la teneur des propos.
Merci Maxime Fayol. Il aura fallu attendre 7 jours en Italie. Les 116 migrants du Gregoretti ont enfin pu débarquer hier après-midi. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, a fini par donner son autorisation après la conclusion d'un accord européen. 5 pays se sont engagés à accueillir ces migrants, dont la France. Sarah Ders, bonjour.
Bonjour.
Mais la France qui a posé ses conditions.
Et oui, la première condition, seulement 30 réfugiés seront accueillis. Parmi ces 30, pas de migrants économiques. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans cette optique, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se rendra sur place dans quelques jours pour instruire leur demande d'asile. Une demande pour déterminer s'ils remplissent ou non toutes les conditions nécessaires en droit français. Un système au cas par cas jugé insuffisant et inefficace par le porte-parole de France Terre d'Asile, Pierre Henry, qui souhaite des opérations de sauvetage coordonnées en Méditerranée centrale, des ports sûrs pour leur débarquement et enfin un accueil partagé des migrants dans toute l'Union européenne. Cette dernière condition, elle est cruciale pour la France, qui l'a exigée avant de donner son accord. Ce message vise en particulier l'Italie de Matteo Salvini, qui refuse quasi systématiquement tout accueil de migrants. La gestion de cette crise illustre bien les limites de l'Union européenne dans ce domaine depuis déjà plusieurs années.
Les ventes de véhicules neufs en France toujours en baisse, moins 1,8% pour ce mois de juillet, après une baisse déjà au mois de juin, avec des chiffres contrastés tout de même selon les constructeurs. Pour Renault, les immatriculations baissent de près de 10%, alors que pour PSA, elles progressent de 4,1%. Les prévisions de Météo France pour cet après-midi, les nuages vont laisser la place à de larges éclaircies en Bretagne, dans les Pays de Loire et le nord du pays. D'ailleurs du soleil, mais tout de même des possibilités d'orages et d'averses en fin d'après-midi sur l'Aquitaine, l'Occitanie, et avec des températures qui iront de 19 degrés cet après-midi à Cherbourg à 28 degrés à Perpignan. Il est midi 44 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal. Les prochaines informations, ce sera tout à l'heure à 18h.